Habituellement, après avoir traversé Tibériade, on remonte sur la berge nord-ouest du lac. C'est un des paysages les plus beaux, les plus riches au point de vue évangélique. Mais il faut mieux traverser cette plaine rapidement. Là, on y fait de l'agriculture intensive actuellement, dans l'orbite du célèbre kibbutz de Guinosa. Alors on traverse cette plaine, on grimpe le bouchon volcanique, là où se trouvait la ville de Kinneret dans l'Antiquité, et on monte dans ce qui est devenu le mont des Béatitudes. Et alors de là, rétrospectivement, on regarde cette plaine de Guinosa, et puis on voit les chancrures d'arbelles dominant cette plaine.
De bananes, et c'est assez difficile d'imaginer comment c'était au temps de Jésus. Alors heureusement, nous avons Flavius Joseph ici qui nous donne une description du pays tel que l'a connu Jésus. Je vous lis ça, ça se trouve dans les guerres juives. Le long du lac de Tibériade, c'est Flavius Joseph qui parle, s'étend une contrée aussi nommée Gennesar, entre Migdal Tarichée et Capharnaüm. Elle est vantée par les rabbins comme un paradis, d'une nature et d'une beauté admirables. Il n'y a point de plante que son sol fertile refuse de porter, et les cultivateurs y élèvent toutes les espèces. L'air y est si bien tempéré qu'il convient aux végétaux les plus divers. Le noyer, arbre qui se plaît dans les climats les plus froids, y croît en abondance à côté des palmiers que nourrit la chaleur, des figuiers et des oliviers qui aiment un climat modéré. On dirait que la nature met son amour propre à rassembler au même endroit les choses les plus contraires, et que, par une salutaire émulation, chacune des saisons veut réclamer ce pays pour elle. Non seulement, en effet, contre toute apparence, il produit les fruits les plus divers, mais il les conserve. Pendant 10 mois, sans interruption, on y mange des rois des fruits, le raisin et la figue. Les autres mûrissent sur les arbres pendant toute l'année. À l'excellence de l'air s'ajoute une source très abondante qui arrose la contrée. Les habitants lui donnent le nom de Capharnaüm. Quelques-uns prétendent que c'est une branche du Nil, car on y trouve un poisson analogue au corassin du lac d'Alexandrie. Je crois que les géographes actuels seraient plus d'accord. Ce canton s'étend au bord du lac, sur une longueur de 30 stades et sur une profondeur de 20. Telle est l'image qu'offre cette contrée bénie. Il me manque aussi un texte du Talmud où on parle de la mer de Kinneret comme un des endroits les plus beaux du monde, mais je n'ai pas apporté. Je trouvais facilement la référence, si vous intéresse, on pourrait aussi le mettre là, en plus.
Au flanc du mont des Béatitudes, c'est saint Matthieu qui parle de montagne, le bon scribe là, qui ne rate pas une occasion de montrer les continuités, aussi les contrastes entre l'ancienne et la nouvelle alliance.
Le décalogue a été donné sur une montagne, et il fallait aussi pour lui que la charte de la nouvelle alliance, le discours sur la montagne, soit donné sur une montagne. Saint Luc, lui, qui était médecin, c'est ça que les apôtres disent qu'il était médecin, il devait avoir le sens de la compassion, là. Et il est très exigeant, il formule les exigences de la suite du Christ d'une façon très très vigoureuse, mais il dit que Jésus descend, il a passé la nuit sur la montagne à prier, et alors il descend et il se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens qui de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. On est ici au flanc de cette montagne, là on a descendu un peu, au fond tu veux nous lire le discours selon Saint-Luc là ?
Levant alors les yeux sur ses disciples, il dit « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Celui-là, au contraire, qui a écouté et n'a pas mis en pratique, ressemble à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol sans fondation. Les flots se sont rués sur elle et aussitôt elle s'est écroulée. Et le désastre survenu à cette maison a été grand.
C'est peut-être dans les derniers mots que nous venons d'entendre la seule comparaison que Jésus prend dans son métier. Il était charpentier, peut-être la paille et la poutre aussi. Mais il n'avait pas de terre dans la tribu de Zabulon puisqu'il était de la tribu de Juda, descendance de David, mais il a dû beaucoup se promener. Et alors c'est curieux, dans les paraboles, on parle toujours de la semence. On a beaucoup parlé des servitudes de l'esclavage, faire des briques, la production, etc. Ici on dirait qu'il pense dans une logique de fécondité, c'est toujours la semence, et puis on ne sait pas comment elle pousse. Alors tenez, on a un petit chemin merveilleux ici. Il y a tout ce qu'il faut pour évoquer la plus célèbre des paraboles. La première, il y a les cailloux, il y a les oiseaux, il y a les mauvaises herbes, il y a la bonne terre, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et Jésus ne l'a pas dite sur ce chemin, il l'a dite depuis une barque. Et on voit des tas de petites criques là. Et la foule était telle qu'il réquisitionnait une barque et puis il s'écartait un peu du rivage. Je ne sais pas comment il faisait, il n'avait pas de bigophone comme on en a maintenant. Pour parler à ces formes énormes qui nous sont données dans l'évangile. Il s'assit au bord de la mer, les foules s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla de beaucoup de choses en paraboles. Tenez, lisons un petit peu l'explication de la parabole du semeur, vous la connaissez tout soir. Marie, là, on n'a pas encore entendu ta voix, là. Écoutez donc la parabole du semeur.
Écoutez donc, vous, la parabole du semeur. Quelqu'un entend-il la parole du royaume sans la comprendre ? Arrive le mauvais qui s'empare de ce qui a été semé dans le cœur de cet homme. Tel est celui qui a été semé au bord du chemin.
Et le discours en parabole se termine dans Saint Matthieu. Avez-vous compris tout cela ? Oui, lui disent-ils. Et il leur dit, ainsi donc tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Et le père Benoît, dans une note de la Bible de Jérusalem, dit que c'est la signature de saint Matthieu. Enfin, le disciple, le scribe du royaume tire de son trésor du neuf et du vieux. Il semble bien qu'il y ait une citation ici du Cantique des Cantiques au chapitre 7, verset 14. Je dis ça parce que je prépare cette journée très importante que nous ferons dans les horizons de Bethléem, à l'école de ce bon scribe qu'est saint Matthieu, comment il a fait son prologue à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament, tirant de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Dans le Cantique des Cantiques, les mandragores exhalent leur parfum, à nos portes sont tous les meilleurs fruits, les nouveaux comme les anciens, je les ai réservés pour toi, mon bien-aimé. C'est curieux, on trouve cette comparaison-là, à la fois chez les chassidim. Vous avez entendu parler des chassidim? J'ai trouvé ça dans Martin Buber, là. On dit que le Baal Shem, qui a vécu en Pologne, qui était à l'école, qui est à l'origine de toute une école mystique, là, dans la prière, ayant une fois prononcé les paroles du cantique « Je t'ai gardé, mon bien-aimé, les fruits nouveaux et les anciens », s'interrompit pour dire « Tout ce qui est en moi, tout, le nouveau et l'ancien, c'est pour toi, toi seul, pour toi ». Alors les gens qui sont autour de lui observent, mais pourtant le rabbi c'est bien pour nous qu'il donne les paroles de l'enseignement. Alors il répond, c'est comme le tonneau quand il déborde, répondit-il. Contemplata lis tradere dans la tradition chrétienne. Et saint Jérôme, quand il commence son commentaire sur Isaïe, vous pourrez lire ça le jour de sa fête dans la liturgie des heures, il dit qu'il va aussi commenter Isaïe en tirant du trésor des choses anciennes et des choses nouvelles.
J'imiterai donc le père de famille.
C'est saint Jérôme qui parle le jour de sa fête dans l'office de lecture.
J'imiterai donc le père de famille qui tire de son trésor du nouveau et de l'ancien, et aussi l'épouse qui dit dans le Cantique des Cantiques, les fruits nouveaux comme les anciens, je les ai gardés pour toi. Et c'est ainsi que je commenterai Isaïe.
En tirant du trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Mais c'est comme la caractéristique du bon scribe. Alors on va le voir au travail, pas encore aujourd'hui, dans les horizons de Bethléem, voir ce merveilleux prologue. Et on va voir comment toute la mosaïque qu'il a composée, la généalogie du Nazoréen. C'est d'abord pas le sujet maintenant. Mais tenez, on pourrait peut-être parler ici, dans le calme du soir. Capharnaüm est fermé maintenant. Vous trouverez dans tous les manuels ce qu'il faut savoir de l'archéologie et de la maison de Saint-Pierre et de la fameuse synagogue. J'ai ici des carnets de fiches. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant simplement de remarquer qu'à côté de la fameuse synagogue, il y a un autre bâtiment qu'on appelle le Beit Midrash.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Darash, ça veut dire chercher, scruter les Écritures. Et dans la tradition juive, on ne conçoit pas qu'on puisse prier sans d'abord avoir écouté la parole de Dieu. Shema, Israël, on a développé ça dans le désert, là. La première chose, c'est l'écoute, l'oreille. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit sur l'oreille ? Et alors, il y a une manière juive de lire l'Écriture. Et je trouve qu'il y a d'étranges ressemblances avec la manière la plus traditionnelle de lire l'Écriture dans la tradition chrétienne. Dans la tradition juive, on parle de pardès. Pardès, c'est un vieux mot perse qui est devenu paradeison en grec, paradise en anglais, paradis en français. Enfin, alors en hébreu, c'est pardès. Et quand on prend les premières lettres de ce mot, On a, je reviendrai là-dessus, pshat, le sens le plus simple. Ensuite, resh, r, si vous voulez, remez, l'allusion. Ensuite, on a le drash, le scruter les écritures. Et puis ensuite, on a le sod, le mystère, la profondeur du mystère qu'il y a dans les paroles de Dieu. Pshat, c'est ce qui apparaît à première vue. Remez, c'est pas défendu d'être intelligent, c'est pas défendu de faire jouer sa mémoire, c'est pas défendu de voir des analogies entre tel ou tel livre, telle ou telle parole, telle ou telle expression. Drash, scruter les écritures amoureusement. Et puis sod, alors ça, on s'en méfie un petit peu. Il y a un certain Elisha Ben Avouya là qui s'est perdu un petit peu dans les spéculations mystiques et qui est devenu hérétique, acher. Enfin, vous interrogerez les spécialistes là du judaïsme là-dessus. Mais alors, dans le christianisme, il y a la lectio divina. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'échelle du cloistrier, pas de Gilles de Chartreux? Autrefois, tout le monde connaissait ça au noviciat. Je suis sûr que Anne connaît ça. Alors, l'échelle du cloistrier, il y a d'abord la lectio, enfin, je dis d'abord meditatio, oratio, contemplatio et predicatio. D'abord la lecture, et l'écoute de la parole de Dieu, la lecture, le sens littéral, comme ça. Ça ne veut pas dire le sens matériel. Le sens littéral, c'est qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Il ne faut pas prendre les choses telles qu'elles apparaissent matériellement, il faut quand même avoir un certain recul pour savoir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Et les notes de nos Bibles ne sont pas quelque chose qui vient parasiter la parole de Dieu, ça nous aide au contraire à la rejoindre, par grâce aux recherches qui ont été faites avec tous les moyens de la science actuelle. Alors, méditation. On fait comme la Sainte Vierge. On remue dans son cœur là tous les événements. Est-ce que vous vous rappelez encore, on a lu ça au puits de l'Achaïroï, après avoir lu l'histoire de Hagar, près de la source, on a évoqué le vieux serviteur qui, après avoir demandé un signe, voit le signe s'accomplir devant ses yeux, et puis regarde Rebecca pendant qu'elle abreuve les chameaux, tous les chameaux. Maharish la dat, en silence, et puis peut-être Maharish en travaillant dans son cerveau, là, il essaie de comprendre les voies de Dieu, la méditation. Ensuite, l'oraison. On a l'intelligence impatiente de ses limites, et puis alors elle frappe à la porte, elle prie pour que Dieu le mène plus loin. Et alors, en quatrième élément, la contemplation. Mais alors ça, ça descend d'en haut. Ça descend d'en haut. C'est un don que Dieu fait. Et ce n'est pas du tout un don réservé à une élite, pas d'oisifs, pas de mandarins assis sur une pyramide d'esclaves, comme dans certaines civilisations, de gens qui peuvent s'adonner à une certaine culture. C'est quelque chose qui peut arriver simplement à quelqu'un qui dit son chapelet, et qui médite, et qui se sent tout d'un coup là, unifié, et avec une joie qui donne envie de la retrouver. Mais on ne peut rien faire pour qu'elle vienne, on ne peut rien faire, elle s'en va ça, aussi de façon absolument incontrôlable. Mais ça existe dans la tradition chrétienne. Et alors, la prédication vient de la contemplation. La formule est de saint Thomas d'Aquin, contemplata aliis tradere. Mais ramener la prédication au sermon, aux conférences, c'est vraiment la bâtardire. La prédication, c'est un débordement. Comme le rabbin dont on a parlé tout à l'heure, le Baal Shem Tov, ça déborde comme d'un tonneau. Normalement, quelqu'un qui est chargé de catéchèse, d'enseignement, de prédication, doit se mettre dans les dispositions, tout un style de vie, qui favorise ce don de Dieu qu'est la contemplation, lequel déborde en prédication. Et je crois que peut-être on se poserait moins de problèmes d'adaptation si les catéchètes, les enseignants, les prédicateurs étaient pleins de ce qu'ils avaient à dire, à en déborder. Et alors à ce moment-là, peut-être que les moyens de transmission deviendraient secondaires. Ils feraient spontanément la transmission. Enfin, on croit aux gens qui ont quelque chose à dire, qui non seulement qui parlent, mais qui disent quelque chose quand ils parlent. Ça existe aussi. Et cette méthode est traditionnelle. Alors, à Capharnaüm, j'invite les gens à méditer là-dessus. Il y a une synagogue dont je fais l'histoire, l'archéologie, et puis aussi toute l'histoire de l'archéologie, parce que pour arriver aux conclusions actuelles, mais ça, vous trouverez ça dans n'importe quel manuel, et j'ai peur d'ouvrir mon carnet, parce qu'il y a un certain temps que j'ai perdu goût à tout cela, et je n'ai pas toujours mis au point mes notes que j'ai faites autrefois. Alors, mais ça me paraît plus intéressant de faire remarquer aux gens cette coexistence. Marquer en général, la synagogue est elle-même une maison d'études. Mais actuellement, on cherche beaucoup de méthodes de recueillement, méditation, etc. Et c'est très bien, je ne vais pas dire de mal, ça aide dans la vie artificielle moderne à retrouver la concentration, le recueillement. Mais ceci dit, aussi bien labourée que soit la terre, si on ne sème pas cette semence de la parole de Dieu, il ne pousse rien.
et la semence. Alors là, on en vient à ce qu'on vient tout le temps dans les paraboles de Jésus. Il faut se laisser ensemencer par la parole de Dieu et puis porter du fruit. Être de ces arbres qui, selon son espèce et en leur temps, donnent du fruit, la fécondité. Échapper à la logique implacable de l'esclavage de la production et puis adopter tantôt les rythmes de la fécondité. La grâce comme le calme de ce soir nous invite à le faire, à écouter la parole de Dieu, à devenir de ces bonnes terres qui produisent 30, 60 ou 100 pour un. On peut se demander pourquoi Jésus a choisi Capharnaüm pour en faire son centre de prédication. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté à Nazareth? Alors, il y a plusieurs raisons qu'on peut... Nazareth est d'abord dans un trou. Hein. S'il voulait donner un minimum de retentissement, même sans faire de propagande, il fallait qu'il se mette sur les routes. Et justement, Capharnaüm, on se trouve sur la célèbre Via Maris dont on a déjà parlé. Elle prend le lac ici en tangence pour traverser ensuite le Jourdain et puis continuer vers Damas. Aussi, rappelons-nous que Jésus n'était pas tellement bien vu à Nazareth. Hein. On a failli le précipiter là, un beau jour, à la sortie de la synagogue, le précipiter. Et puis, ses parents n'ont pas l'air d'avoir cru beaucoup en lui. On le poursuit jusqu'à Capharnaüm en pensant qu'il est hors de sens. Et puis, il y a peut-être une troisième raison, c'est que Jésus a peut-être pratiqué lui-même le conseil qu'il donne à ses apôtres. Si on vous persécute dans un endroit, allez dans un autre. Et peut-être qu'il s'est approché aussi de la frontière. Par le Jourdain dont nous nous approchons maintenant en direction de Bethsaïde était la frontière à l'époque de Jésus entre les états d'Hérode, Antipas, et puis les états de Philippe. Et on dit un beau jour, vous rappelez dans l'évangile que Hérode, Antipas, sa police est en train de s'inquiéter de Jésus. Jésus n'a injurié personne, mais enfin il a traité ce Hérode, Antipas de renard. Allez dire à ce renard, j'ai fait mon travail, et puis dans mon heure sera venu. Mais il y a peut-être, il s'est peut-être approché aussi de cette frontière que nous allons passer maintenant. Et à la frontière, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait un douanier. Et de même que Jésus a pris des pêcheurs du lac pour faire des pêcheurs d'hommes, il a pris ce scribouillard, ce fonctionnaire, là, Saint Matthieu, pour Matthieu, fils d'Alphée, qui était assis au bureau de la douane, qui est devenu le premier évangéliste, ce bon scribe dont on a parlé tout à l'heure. Et la frontière n'était pas une frontière avec contrôle de devises et fouilles et tout ça, comme beaucoup maintenant. Il y avait pas mal de trafic. Les trois premiers apôtres dont on a parlé sont originaires de Bethsaïde, où nous allons aller maintenant. Et Pierre, qui est de Bethsaïde, avait dû se marier avec une fille de Capharnaüm, puisque, rappelez, sa belle-mère était malade, là, et Jésus l'a guérie. Il avait dû hériter peut-être de l'affaire de pêche, de la barque de son beau-père. Et puis, il avait des ouvriers salariés, mistotès, on parle de... Oui, et il travaillait probablement avec un autre habitant de Capharnaüm qui avait une barque, lui aussi, le père de Jacques et de Jean, Zébédée. Et on voit très bien dans l'humilité de cette vie, là, comment naît la grande église universelle. C'est bien la méthode de Dieu, ça, de faire des petites choses dans un coin caché qui vont se répercuter à travers le monde. Cette promotion étrange qu'on trouve dans toute la Bible, du concret à l'universel. Vous, l'émerveillement de Jésus devant la fécondité de la plus petite des semences, le grain de sénevé, je vous en montrerai, on en trouvera certainement, et la plus petite des semences qui devient un arbre où peuvent s'abriter les oiseaux du ciel. Et puis aller vers Bethsaïde, et c'est peut-être là qu'on sera le mieux pour parler de la multiplication des pains. On a déjà parlé dans le désert, vous rappelez, de la manne, et puis de ce geste dans lequel Jésus se mettait tout entier, ce geste royal et sacerdotal. Là, il prend du pain, il le lève et puis il le distribue. C'est comme toute la condition humaine royale et sacerdotale qui est comme restaurée. Mais avant de concentrer notre attention sur ce geste singulier, moi je crois qu'en faisant la route ici, si pleine de souvenirs évangéliques entre Capharnaüm et Bethsaïde, là, on pourrait évoquer le comportement de Jésus. On a écouté ses discours, mais comme il est le Verbe incarné, bah, toute sa personne parle, ses silences, tous ses gestes au pluriel. Et alors, le mieux, alors, c'est d'interroger Saint Marc. Voyez, on se met à l'école des différents évangélistes et ils ont chacun leur qualité particulière. Et celui qui peut-être nous permet le mieux d'observer Jésus dans son comportement, dans ses gestes au pluriel, c'est Saint Marc. Prenons le début de son évangile, la journée à Capharnaüm. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée proclamant l'évangile de Dieu. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient des perviers dans la mer, c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Voyez toujours ce aussitôt, 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 eutus, là. On dirait une collection de diapositives, là, de slides qui défilent. Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Et avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, eux aussi dans leur barque, en train d'arranger les filets. Et aussitôt, il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. Ils pénètrent à Capharnaüm. Et aussitôt, le jour du Shabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et aussitôt, dans la synagogue, un homme possédé d'un esprit impur. Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre. Et aussitôt, il lui parle à son sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main, et la fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques, et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades, atteints de divers maux. Et il chassa beaucoup de démons. Il ne leur laissait pas parler les démons, parce qu'il savait qui il était. Et le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit, et s'en alla dans un lieu désert, et là, il priait. Sa prédication devait être dans le prolongement de ce dialogue qu'il entendait quelquefois toute la nuit avec son père, Père Noctan, sin oratione Dei. Tout le monde te cherche, lui dit Saint-Pierre, qui réussit à le retrouver quand même, et il leur dit, allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Un lépreux, tout le monde connaît aussi, alors le rudoyant, il le chassa. Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et le venait à lui de toutes parts. Tout le monde connaît l'histoire du paralytique et du trou dans le toit. Et alors il sortit de nouveau au bord de la mer et toute la foule venait à lui les enseigner. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de la douane. Il lui dit, suis-moi. Et se levant, il le suivit. Alors qu'il était à table dans la maison, beaucoup de publicains et de pécheurs se trouvaient à table avec Jésus et ses disciples. Il y en avait beaucoup qui le suivaient. Les scribes, les pharisiens, le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, alors quoi? Il mange avec les publicains et les pécheurs. Et Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors, il y a toujours des gens qui disent, nous les justes, alors qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, ça, c'est incurable. Alors, il y en a qui se posent des questions au sujet du jeûne, des pratiques, tout ça. Alors, il y a de ces phrases-là qui sont devenues des proverbes que tout le monde connaît. Personne ne coud une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux vêtement et la déchirure s'aggrave. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fera éclater les outres et le vin est perdu, aussi bien que les outres. Mais du vin nouveau dans des outres neuves. Alors, il a l'occasion de montrer aussi sa culture biblique. Là, on reproche à ses disciples de se frayer un chemin en arrachant des épis, en traversant un champ, et c'était le jour du Shabbat. Alors, il y en a qui pinaillent sur la question. Et ici, c'est l'histoire de David, que le prêtre Abiathar, à qui le prêtre Abiathar donne les pains d'oblation. Qui n'est permis à personne de manger qu'au prêtre. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. En sorte que le fils de l'homme, on aura l'occasion de revenir cette expression, le fils de l'homme, est maître même du Shabbat. Alors il y en a qui l'épient pour voir s'il allait guérir un malade le jour du Shabbat afin de l'accuser. Vous sentez comment la situation s'envenime. Alors il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Et il leur dit, est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer? Mais eux se taisaient. Promenant alors sur eux un regard de colère, doux et humble de cœur, il a quelquefois des regards de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il étendit, et sa main fut remise en état. Étant sorti, les pharisiens tenaient aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui en vue de le perdre. Et alors, il y a une telle multitude qui vient de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la Transjordane, des environs de Tyr et de Sidon, qu'il dit à ses disciples qu'une petite barque fut tenue à sa disposition, à cause de la foule, pour qu'il ne l'écrase pas. Car il en guérit beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour le toucher. Alors c'est là qu'il institue les 12, après avoir prié sur la montagne, il institua 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de chasser les démons. Alors il les liste qui diffèrent quelquefois, mais c'est toujours Pierre qui est en premier. On aura l'occasion de parler beaucoup de lui demain. Et il vient à la maison. La maison, c'est devenu l'embryon de ce qui va devenir la grande église universelle. La foule se rassemble, si bien qu'il ne pouvait même pas manger de pain. Et les saints l'y ont appris partir pour se saisir de lui, car il disait il a perdu le sens. Et alors il y a en face d'une communauté, là vraiment de mauvaise foi, qui l'accuse de chasser les démons par le chef des démons, se forme un groupe dont les liens, dont les relations sont plus étroites que les relations, les liens de la chair et du sang, de la parenté. Sa mère et ses frères arrivent, se tenant dehors, ils le firent appeler. Il y avait une foule assise autour de lui, on lui dit, voilà que ta mère et tes frères et tes sœurs sont là dehors qui te cherchent. Il leur répond, qui est ma mère et mes frères? Et promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une sœur et une mère. Et une autre fois, une femme s'écrie dans la foule, heureux le sein qui t'a porté et les mamelles que tu as sucées. Et il dit, heureux plus encore ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. On a l'occasion comme ça d'observer tout le comportement de Jésus qui encore une fois est parole puisqu'il est verbe incarné et tout est révélateur dans son comportement.